Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Il est écrivain, journaliste, producteur, essayiste et polémiste, Georges-Marc Benamou, qui possède aussi ce talent singulier d'entrer dans les sphères très intimes du pouvoir et d'y rester comme confident ou conseiller, ce qu'il fut avec François Mitterrand, puis avec Nicolas Sarkozy. Je reçois donc un romancier qui est l'observateur privilégié des mécaniques du pouvoir. Son nouveau roman a pour titre « Le général a disparu », il paraît chez Grasset, et on part en balade.
Europe 1.
Bonjour Georges-Marc Benamou.
Bonjour Isabelle Morizet.
Alors, en près d'un demi-siècle, puisque De Gaulle est mort le 9 novembre 70, une quarantaine de livres ont été écrits sur celui qui semble incarner à jamais, malgré le désaveu de la nation à la fin de sa vie, la grandeur et l'honneur de la France. Mais vous, Georges-Marc Benamou, vous vous êtes emparé d'un épisode très singulier dans la vie de De Gaulle. Cette fameuse journée du 29 mai 68, où, en plein chaos révolutionnaire, tout le monde perd la trace du général. La police, la sécurité militaire, ses ministres, bref, le général a disparu. Alors, on s'est longtemps demandé si cette disparition avait été scénarisée par De Gaulle lui-même et si c'était une ruse. Or, De Gaulle, vraiment, c'est votre conviction, vous allez nous le dire, De Gaulle, vraiment, ce jour-là, était prêt pour l'exil ?
De Gaulle a craqué. C'est ça qui fait tout le sel de cette histoire absolument mystérieuse qui pourrait ressembler, si l'histoire s'était déroulée ainsi jusqu'au bout, à la fuite de Varennes de Louis XVI. Car oui, devant 10 millions de grévistes, c'est-à-dire 10 millions de gilets jaunes de l'époque.
Ouais.
Après 7 émeutes qui ont déstabilisé Paris où la police perd des pieds, après 10 nuits d'insomnie pour un homme qui avait 80 ans,
ouais.
De Gaulle craque le soir où sa femme, pour la deuxième fois dans la semaine, se fait agresser dans la rue. Et ça le choque infiniment.
Et agresser, pas d'une manière anodine, hein, par quelqu'un qu'elle pouvait imaginer être de son bord, c'est ça ? Quelqu'un au volant d'une déesse, donc considéré comme un bourgeois.
Vous avez complètement raison. Cette histoire d'homme à la déesse va tellement choquer Georges Pompidou. Dans ses mémoires, il dira « c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui fait que De Gaulle part le 29, car il pense qu'il va être pendu. Il pense à une révolution, il pense à la prise du palais de l'Élysée. On annonce une manifestation communiste, on annonce des armes. » Et la veille au soir, choqué, il prépare son départ dans le plus grand secret. Les valises sont faites, des archives sont préparées, des papiers sont brûlés, les bijoux sont pris, les fonds de secret...
L'argenterie
sont...
Il embarque des codes.
Oui, oui, non, c'est une fuite. Comme celle de Louis-Philippe, comme celle de Louis XVI. Mais ça va être, et c'est le sens de mon livre, une fuite interrompue.
Bien sûr. Alors, dans ce départ caché, pendant que la rue gronde, il y a vraiment tout, comme vous venez de le dire, de la dramaturgie de la fuite à Varennes. Sauf que De Gaulle, il avait, lui, sauvé la nation, il avait rétabli par deux fois, en 45 et en 58. Donc il n'allait quand même pas finir en déserteur.
De Gaulle, c'est pas un roseau comme Mitterrand. De Gaulle, c'est un chêne. Et partant de grand vent, les chênes, ça se déracine. Et c'est ce qui est très intéressant et très bouleversant dans l'histoire de ce général qui a disparu. C'est cet homme qui perd pied. C'est cette histoire d'amour. D'amour, c'est une Jeanne d'Arc, c'est pas une image. C'est plus que Jeanne d'Arc, De Gaulle, qui a une histoire d'amour passionnelle avec la France depuis 30 ans. C'est sa fiancée, c'est son enfant. Et cet enfant, ce pays qu'il a sauvé en 40, qu'il a sauvé en 58, disent ses amis, ce pays ne veut plus de lui. Car qu'est-ce qui s'est passé? Il a tenté une dernière chance. Il a tenté de lancer un appel du 18 juin nouveau. C'est le vendredi 24 mai, c'est sa dernière carte, une grande intervention à la télévision.
Et c'est un fiasco.
C'est un fiasco. Dans la rue. Dès qu'il a fini de parler à 20h, les gens descendent dans la rue et se moquent de De Gaulle. Vous savez que cette nuit-là, on a brûlé la bourse à Paris.
Ouais. Alors, quand Fouché, ministre de l'Intérieur, dit au général le 28 mai 68 qu'il s'agit d'une guerre vraiment inédite dans les rues de Paris, on songe à la phrase que le duc de Liancourt dit à Louis XVI, « Non, sire, ce n'est pas une révolte, c'est une révolution. » En fait, De Gaulle découvre totalement ces nouvelles guerres urbaine, dont il ignore absolument tout. Et il demande à ses ministres, ça c'est incroyable, il demande s'il faut tirer ou non sur les émeutiers.
Dès le 3 mai, De Gaulle est excédé par la mollesse et la tempérance de ses ministres. dans les universités, dans les lycées, c'est le chaos, etc. Et il demande, en tout cas, qu'on fasse tirer en l'air. Il demande qu'on fasse peur. Il demande qu'on donne de la gnole, de l'alcool et des primes aux flics pour qu'ils soient, comme on le fait aujourd'hui, pour qu'ils soient plus résistants.
Non, mais il se trompe d'époque.
Et le 10 mai, c'est la troisième ou la deuxième émeute, la police et les CRS perdent de pied devant les manifestants. Ça se finit à 5h du matin. Et ils perdent de pied. Et qui décrète le cessez-le-feu? C'est pas le préfet de police, c'est Danny Cohn-Bendit qui, je crois, au micro d'Europe 1, dit non, non, il faut cesser le feu. Et De Gaulle l'apprend. Et à 5h30 du matin, il convoque, à 5h30 du matin, une sorte de conseil de crise. En pyjama, il les reçoit. Il reçoit le ministre de l'Intérieur, il reçoit le ministre des Armées. Et effectivement, là, il demande qu'on fasse tirer.
Mais c'est absolument insensé. Alors, le romancier que vous êtes, Georges-Marc Benamou, dit que, effectivement, il était convaincu que le peuple armé allait marcher sur l'Élysée et il redoutait une mort à la Mussolini avec un cadavre humilié.
Écoutez, et là, c'est la part du romancier. À quoi il pense De Gaulle qui va partir le lendemain? On ne peut pas ne pas penser aux révolutions passées quand on est un roi. Il ne peut pas ne pas penser que sa femme ne va pas être égorgée comme la femme de Mussolini, que son fils, sa femme, ses enfants habitent dans un immeuble et ils sont cernés par un piquet de grève de la CGT. Ils doivent présenter leurs papiers. Le Philippe de Gaulle, il le sait. Il pense, la famille pense qu'elle peut être traitée effectivement comme la famille de Louis XVI. Comment savoir comment l'histoire se termine? La violence était telle, plus rien ne répondait. Enfin, imaginez, ce sont des questions que Macron a dû se poser. Mmh. Mais lui, il a 300 000 gilets jaunes. De Gaulle, il en avait 10 millions face à lui.
Alors, en vous lisant, Georges-Marc Benamou, on découvre la haine de Gaulle pour son Premier ministre, Georges Pompidou, responsable à ses yeux de ce qu'il appelait la chienlit par une inertie calculée. Vous parlez de haine.
Je pense qu'il le prend pour Brutus. L'expression vient de Madame de Gaulle, c'est Brutus. La tension entre de Gaulle et Pompidou est terrible. Pourquoi? Parce que Pompidou, qui est l'homme de l'ombre, il prend goût au pouvoir. Quand vous êtes à Matignon, vous pensez à la marche au-dessus. Et quand en 1965, mon livre se passe en 68, Pompidou apprend que de Gaulle se représente, il est déçu. Il est très déçu, il ne le gâche même pas, de Gaulle. Et les ennuis vont commencer, et de 65 à 68, ça va être un bras de fer, et en particulier sur une question fondamentale encore aujourd'hui, la question de la sélection à l'université.
Ouais.
De Gaulle voit l'avenir avec son conseiller, il sait comment sera le
21e siècle. Oui, c'est un visionnaire.
Il pense, et il sait que les facultés vont devenir des usines à chômeurs, ce qu'elles sont hélas devenues. Et il demande une sélection, peut-être un peu autoritaire, en fonction des besoins de l'économie, qu'on oriente. L'élémentaire. Et à cela, dès 1966, Pompidou et ses ministres s'opposent. Et ils ont tort. Et ça va créer une crise. Ça va amener à mai 68. En tout cas, il est triste aussi. Il est triste parce que, à l'époque, la bourgeoisie, la droite, le Figaro, ils veulent se débarrasser de De Gaulle, du grand De Gaulle. Et ils ont leur sauveur, il s'appelle Pompidou.
Oui, parce que on avait rapporté à De Gaulle que même dans son camp, en fait, on répétait « être gaulliste aujourd'hui, c'est souhaiter le départ du général pour son bien ». Donc, il fallait un coup de théâtre pour cautériser son désespoir, d'où l'idée de ce trou noir dans son agenda. En fait, pour tester ses troupes, pour inquiéter Pompidou, sans doute, et pour choisir sa fin, c'est ça ?
C'est une des hypothèses, c'est-à-dire qu'il y aurait quelque chose de calculé dans le départ.
N'y croyez pas ?
Non. Mais il y a deux manières de raconter l'histoire. Effectivement, soit c'est préparé, c'est un coup de théâtre psychologique, c'est ce que dit le général de Boissieu, le gendre de Gaulle, soit il a craqué, c'est la thèse de Massu, général Massu, et de Pompidou. C'est plutôt celle à laquelle je me rallie. Cet homme était fragile. De Gaulle est un, est-ce qu'on pourrait dire, bipolaire, et quelqu'un qui est extrêmement fragile. Il a la tentation du suicide en octobre 1940, quand il a son échec face aux troupes de Vichy à Dakar. Il claque la porte spectaculairement du pouvoir en 1946 et il le regrette pendant 12 ans. C'est un grand sentimental, au fond. Et son histoire d'amour avec la France, elle se termine dans les déchirements, les drapeaux rouges et le chaos.
Europe.
Alors on s'interrompt parce que c'est vraiment passionnant, un très bref instant, et on retrouve mon invité cet après-midi, Georges-Marc Benamou, qui fait paraître chez Grasset « Le général a disparu ». À tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Europe 1.
Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, une heure en tête à tête pour retracer le parcours d'une personnalité. Et cet après-midi, Isabelle Morizet, vous recevez un écrivain journaliste qui, dans son dernier livre, fait se rejoindre fiction et réalité.
Quand le destin d'une nation est suspendu au destin d'un homme, Georges-Marc Benamou, publié chez Grasset, Le Général a disparu. Alors, Georges-Marc Benamou, à quand remonte cette fascination pour les hommes de pouvoir qui font histoire? À votre enfance?
Peut-être. Je vais vous raconter quelque chose. Mon grand-père paternel était le sosie du général de Gaulle. Il était très grand. Il avait à la fin de sa vie des lunettes loupes. Il avait la même posture de ce ventre un peu avancé, de ce côté un peu voûté des très grands. Il avait le même visage. Il m'est arrivé dans mon enfance, vers 7-8 ans, alors que j'étais tout petit et lui immense, que les gens se retournent dans la rue. À tel point, la ressemblance était frappante.
Était-il gaulliste?
Pas tellement, non. Lui, il avait aimé Léon Blum. Il était plutôt Front Populaire.
Ouais.
Mais bien sûr qu'il aimait De Gaulle. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans mon rapport à ce livre, et plus tard peut-être à Mitterrand, des promenades de ce petit garçon qui tenait la main de ce grand homme et qui savait qu'il ressemblait à De Gaulle. Enfin, j'étais très attaché à ce grand-père.
Alors, en mai 68...
Et puis j'ai détesté mai 68, ça m'a fait peur. Par ailleurs, j'étais tout petit.
Justement, on va l'évoquer. Vous aviez 11 ans en mai 68. Votre collège à Nice était fermé et vous vous étiez retrouvé en vacances forcées dans la capitale où se dressaient les barricades. Pourquoi vos parents vous avaient-ils amené dans ce chaos?
Bah écoutez, il n'y a rien à faire à Nice. On va voir les grands-parents, les cousins, etc.
Mais là, vous étiez sous l'œil du cyclone.
J'étais sous l'œil du cyclone, oui, oui. Et effectivement, on se promène dans la 404 de mon père, descend le boulevard Saint-Michel, on s'arrête. Et là, je vois effectivement les lendemains de barricades, des voitures, petits garçons, des voitures fumantes, des voitures renversées, des poubelles en flammes. Et moi, ça me fait peur. Moi, j'aime pas le chaos parce que je suis né dans l'Algérie en guerre.
J'ai donc l'odeur de la poudre, vous la connaissez.
Et je la connais et j'ai eu une très forte antipathie pour ce chaos qui m'a beaucoup inquiété et beaucoup de compassion pour ce vieux monsieur contre lequel les étudiants chevelus se rebellaient. Je ne le comprenais pas.
Vous l'avez quitté en 62, l'Algérie, c'est ça?
Oui.
Les enfants sentent très bien quand l'histoire du monde se met à échapper aux adultes.
Oui, moi ça m'a beaucoup marqué. Je pense que enfant ne pas contrôler son propre destin, entendre que l'histoire passe, que les bombes explosent, que les morts sont là, que le danger est là, moi m'a beaucoup pris dans une spirale d'inquiétude qui m'a façonné, c'est-à-dire avoir une prise sur le monde, cet enfant qui est ballotté, comme tous les enfants, mais ça m'a donné un rapport au monde où j'ai voulu avoir une prise. Quand on est enfant, on n'a pas de prise sur le temps.
Alors, ça nous ramène donc à la question de l'usage du feu qu'on évoquait à l'instant et qui est posé dans votre roman, Le Général a disparu, car vous pensez qu'elle a vraiment hanté De Gaulle, même dans une démocratie occidentale, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Peut-on tirer pour défendre des institutions? En fait, il y a une résonance, avec les Gilets jaunes et puis la graduation de part et d'autre de l'acceptable. Mais en 68, vraiment?
Ça a dû être un débat intérieur terrible pour De Gaulle. Au fond, il faut le rappeler aujourd'hui, il y a eu deux morts par périphérique, si je peux dire, un commissaire de police tué par un camion lancé par des étudiants et un autre étudiant dont on ne connaît pas bien. Enfin, on ne peut pas dire qu'il y a eu de mort directe de mai 68. Et ça, c'est dû d'abord, finalement, à Pompidou qui a gardé ses nerfs et à un très grand préfet de police qui était le préfet Grimaud, qui a inventé une forme de service d'ordre républicain. Et c'est par miracle et par la volonté de cet homme s'il n'y a pas eu de mort. Et au fond, aucun pouvoir, et pas même celui de Macron, ne peut faire l'économie de cette question. Jusqu'où la violence est-elle légitime pour établir l'ordre? Et cette question, elle s'est posée dans les débats probablement de M. Macron et de M. Castaner. Jusqu'où on va? Parler les balles de défense, les tasers électriques, on tire en l'air. C'est une question légitime dans des moments populistes. De Gaulle n'a pas pu ne pas se la poser. Est-ce qu'il a voulu absolument qu'on fasse tirer? Je n'en suis pas sûr. Je pense qu'il ne se serait pas résolu à partir comme Pinochet. Vous imaginez?
Bien sûr, on veut le croire.
Et que c'est l'explication, peut-être parce qu'il n'a pas voulu faire tirer,
qu'il a pris la fuite.
Voilà.
Alors, ce roman, Le Général a disparu, vous en écriviez les dernières pages quand Éric Drouet a emmené les Gilets jaunes aux portes de l'Élysée. Est-ce que ça nourrit votre récit qui, lui, se déroule 51 ans plus tôt? Parce qu'il faut bien dire que De Gaulle, par exemple, détestait l'emplacement de l'Élysée, qui était encastré au milieu de rues où il y avait des hôtels de luxe pour étrangers, des boutiques. Enfin, il trouvait que c'était complètement ridicule et indéfendable. Lui, il rêvait d'une présidence au château de Vincennes, n'est-ce pas?
Absolument. C'est ce que disent les historiens. Finalement, le déménagement à Vincennes était trop cher, trop coûteux. On lui a déconseillé. Mais Vincennes est protégeable. Le palais de l'Élysée, vous avez raison Isabelle, n'est absolument pas protégeable. C'est un des palais les moins protégés au monde, encastré. Et c'est une des explications de la fuite de De Gaulle. Mais
aucun président de la République depuis De Gaulle n'a songé à transporter ailleurs la présidence.
Mitterrand a fait étudier la question, lui avait pensé aux Invalides, et il a calé, comme De Gaulle, trop cher, trop coûteux. Et l'État n'a pas suivi. Mais au fond, cette question du palais de l'Élysée, vous me posiez la question. Moi, je corrigeais la fin du livre quand j'ai vu Éric Drouet rentrer rue de la Paix.
Ouais. Hein.
Puis tourner à gauche, rue Saint-Honoré. Et là, je me suis dit, mais quelle folie, mais que fait le préfet de police? C'était la hantise des préfets de police de toute l'histoire de France, en fait, depuis au moins un siècle, avec l'Élysée et le siège du pouvoir. C'était la hantise des ministres de De Gaulle. On ne laisse rentrer personne sur la rive droite. Cette idée que le palais pouvait être attaqué ce jour-là, effectivement, m'a fait penser qu'il y a des correspondances entre les Gilets jaunes qui voulaient attaquer l'Élysée, ce qui se passait en mai 68. Qu'est-ce qui serait passé si on ne les avait pas arrêtés? C'est ce qui explique, à mon avis, qu'il y a eu du flottement dans le maintien de l'ordre. Il était impensable qu'on les laisse approcher aussi près de l'Élysée. C'est une faute extrêmement grave. Qu'est-ce qui se serait passé?
On fait une pause, on retrouve tout de suite Georges-Marc Benamou.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Europe 1. Son grand-père était le sosie du général de Gaulle, nous a-t-il dit tout à l'heure, il y a quelques minutes sur Europe 1. Georges-Marc Benamou est venu nous parler de son dernier livre au micro d'Isabelle Morizet. Vous écoutez, il n'y a pas qu'une vie dans la vie.
Georges-Marc Benamou, qui fait paraître chez Grasset, le général a disparu, est cet après-midi mon invité. Alors Georges-Marc Benamou, certes, vous étiez un jeune Rastignac pourvu d'un joli bagage quand vous êtes arrivé dans la capitale. Une maîtrise de droit, un certificat d'aptitude à la profession d'avocat et un début de carrière de journaliste au quotidien La Provence. Mais tout est allé quand même très très vite pour vous parce que en 79, vous n'aviez donc que 22 ans, vous rencontrez Bernard-Henri Lévy, vous vous en faites un ami et un peu plus tard, Pierre Berger, qui ne vous échappe pas non plus et qui va donc vous faire entrer dans le cercle très rapproché de François Mitterrand. Alors, cette question, c'est si facile que ça quand on est parachuté de nulle part, mais qu'on est jeune et brillant, c'est si facile que ça d'entrer dans les vrais cercles du pouvoir?
Non, c'est, j'imagine, du travail, du labeur. La rencontre avec Berger, elle s'est faite après que j'étais un petit peu là du journalisme, là où je travaillais. J'avais envie de créer l'effervescence des années 80, un nouveau journal, un peu concurrent du journal actuel à l'époque. Et c'est Berger qui nous a suivis dans ce projet. Et puis le journal a plutôt très bien marché, coûté beaucoup d'argent à Pierre Berger, mais a eu beaucoup d'influence.
Alors,
oui, peut-être quand on a moins de 30 ans.
C'était le journal Globe,
oui,
dont vous êtes devenu à 28 ans, rédacteur en chef, financé donc par Pierre Berger, avec bien évidemment, on va dire, la bénédiction de François Mitterrand, parce que c'était un journal pro-Mitterrand, antiraciste, intello, glamour, voilà. Bon, il vous reste quoi de cette folle aventure de Globe?
D'abord, là, une aventure de jeunes gens tout à fait bohème, tout à fait artiste, où j'ai embarqué des gens qui vont devenir des écrivains intéressants, que ce soit Frédéric Becbédé ou pas Yann Wax, mais ou des photographes comme Bettina Reims, je peux en citer beaucoup, mais enfin ça a été une école pour une certaine jeunesse branchée d'écrivains,
de crème des artistes et de l'intelligentsia de l'époque.
Oui, en tout cas des jeunes écrivains, on s'est beaucoup amusé. Il y avait une période assez créative à Londres, à Paris. Tout ça a un peu changé. Il y avait un journal qui s'appelait Actuel, il y avait Rolling Stone, il y avait City, il y avait Globe. C'est presque une autre époque dont je suis un peu nostalgique. C'est un journal de jeunesse, comme il y a des œuvres de jeunesse.
C'est un journal de jeunesse, c'est la raison pour laquelle Globe, en fait, est mort en 94.
Oui, parce qu'on avait essayé de le transformer en formule hebdomadaire. et qu'au fond, j'étais un jeune homme un peu épuisé. J'avais passé 10 ans, et j'étais très jeune, quoi, à m'occuper d'un journal. J'avais envie d'autre chose, voilà.
Et puis en 94, vous saviez, Georges-Marc Benamou, que la gauche perdrait l'élection présidentielle de 95. C'est à cette époque que vous avez décidé de chroniquer sur vos fameux carnets les derniers jours de Mitterrand.
Oui.
Vous qui aviez justement pénétré ce cercle comme ça des intimes.
C'est-à-dire qu'après la fin des années Globe, effectivement, Mitterrand est très malade, 92, et c'est à ce moment-là que je le vois beaucoup. Et ça m'a intéressé de voir ce monarque au crépuscule, finalement. J'ai pas connu le Mitterrand des débuts, celui qui distribuait des portefeuilles ministériels et des chaînes de télé. Moi, je suis arrivé comme un jeune homme à la fin. Et au fond, il était pas très à la mode à l'époque, Mitterrand. Moi, je me suis fâché avec beaucoup de mes amis intellectuels.
Il n'était plus à la mode.
Oui, c'était pas bien de fréquenter Mitterrand. On m'a traité de collabo, de vichiste, etc. Enfin, je veux dire, quand tous les samedis, pendant 3 ans, avec Pierre Berger, nous déjeunons avec lui, c'est pas le Mitterrand flamboyant, c'est un homme qui a un cancer, c'est un homme qui est attaqué tous les jours par le journal Le Monde, c'est un homme qui est surveillé par les flics de Pasqua. Enfin, c'est un climat assez, on dit, crépusculaire, oui, shakespearien.
Il savait, Mitterrand, que vous publieriez ses confidences. Il vous les faisait pour qu'elles soient publiées.
Évidemment. D'abord, nous avons fait 2 choses. Nous avons fait un livre ensemble qui s'appelle « Mémoires interrompues
»,
qui est un livre de dialogue. Mais il était évident que parlant tout le temps, beaucoup, je suis probablement celui qui l'a le plus rencontré à la fin de sa vie, il y avait de l'affection, de l'amitié. Il y a parfois eu des désaccords. Il savait tout ça. Il connaissait trop la littérature. Je pense que la seule exigence, il n'a pas lu mon livre parce qu'il était mort, c'était que ce soit une œuvre littéraire. C'est mon premier livre, Le Dernier Mitterrand. Ça a donné lieu à un très beau film de Robert Guédiguian, Le Promeneur du Champ de Mars. Et je pense que j'ai honoré ma dette
avec
littéraire.
Et incarné par Michel Bouquet, qui d'ailleurs a été césarisé, n'est-ce pas, pour cette
Quelle
prestation.
Quelle mémoire, Isabelle. Et donc je lui ai rendu hommage, peut-être par la qualité, pardon de me citer, de ce travail.
Alors, Mitterrand vous dit « J'ai été élu trop tard ». 65 ans, c'est l'âge où on ne peut plus rêver. En fait, il est toujours arrivé trop tard, Mitterrand, pris de vitesse par De Gaulle, pris de vitesse par mai 68, puis par Giscard, pris de vitesse par la maladie qui était déjà là en 81, et puis par 2 cohabitations qui l'ont empêché vraiment de savourer son règne. Mitterrand est l'homme à qui tout est arrivé un peu trop tard.
C'est très intéressant ce que vous dites. C'est très intéressant, je n'y avais jamais pensé ainsi. Et il y a quelque chose de juste, comme s'il courait après son destin. Effectivement, il arrive trop tard parce qu'il aurait dû en fait être élu selon lui en 74. Il arrive trop tard sur un certain nombre de décisions avec un temps de retard. Oui, c'est une jolie image.
On fait une pause, on retrouve tout de suite Georges-Marc Benamou.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 15h, 16h sur Europe 1.
Il est 15h32, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, la suite sur Europe 1 avec vous Isabelle Morizet et votre invité venu nous parler de son dernier livre, livre dans lequel il révèle la face cachée de Charles de Gaulle.
Je reçois le romancier, journaliste, essayiste et polémiste Georges-Marc Benamou qui fait paraître chez Grasset « Le général a disparu ». Georges-Marc Benamou, rien de tel pour se faire des ennemis qu'être conseiller ou confident du prince. Alors, je rappelle qu'avant d'être nommé en 2007 conseiller de Nicolas Sarkozy pour la culture et l'audiovisuel, vous avez été, vous allez me pardonner ce terme, mais le turiféraire et le confident très privilégié de Mitterrand les 3 dernières années de sa vie. Comment vit-on et comment dort-on quand on a beaucoup d'ennemis ?
Me concernant, beaucoup d'ennemis, écoutez, il faut savoir que dans les périodes heureuses où on est faste et on a du succès, le téléphone sonne beaucoup et que dans les périodes moins fastes, le téléphone sonne moins. Mais une fois qu'on sait ça, ça va. Non, moi je n'ai pas à me plaindre. C'est vrai qu'on reçoit des coups quand on sort des cases, des clichés, etc. Mais c'est aussi au prix d'une vie intéressante et peut-être moins conformiste.
Alors sortir des cases, justement, s'aventurer, passer d'une planète à une autre, comment passe-t-on de la grande proximité de Mitterrand à la grande proximité de Sarkozy ? On fait le tri dans ses convictions ?
Moi, je n'ai jamais été socialiste. J'ai un modèle politique, historique, qui est Georges Clemenceau. J'aime beaucoup cette fermeté républicaine de centre-gauche. Et au fond, j'ai pu aimer à la fois Mitterrand et Sarkozy, car je suis un peu et de droite et de gauche, était peut-être un devancier du macronisme sur le plan économique. Bon, j'étais tout
vous,
à
vous
fait d'accord.
Vous êtes très diplomate, là. Hein
oui, non, mais j'étais tout à fait d'accord avec Nicolas Sarkozy sur le plan économique. Le Sarkozy de 2007 est très innovant, très créatif, beaucoup plus à gauche, entre guillemets, en tout cas dans sa promesse électorale en 2007, que Ségolène Royal, qui a un côté fille de militaire, pardon, un peu ordre moral. On regarde des dessins animés et on se couche à 11h, quoi. C'était un peu ça son programme politique. Donc, la créativité de Sarkozy m'a beaucoup intéressé, outre des liens d'amitié. La pratique du pouvoir, vivre à l'intérieur de la cité interdite qu'est l'Élysée, fréquenter le secrétaire général de l'Élysée ou certains ministres, ça c'est autre chose. Avaler des couleuvres comme la nomination de Madame Ockrent, femme du ministre des Affaires étrangères, à la tête de l'audiovisuel extérieur, ça, c'est des couleuvres que je n'ai pas pu avaler.
Alors, au cours de la présidence de Nicolas Sarkozy, vous n'étiez pas ministre de la Culture, c'était Christine Albanel, vous étiez conseiller. Un conseiller, ça analyse, ça imagine. Mais surtout, un conseiller pour la culture, eh bien, ça doit digérer l'air du temps pour impulser des projets, des idées. Qu'est-ce que vous avez initié dont vous êtes le plus fier, Georges-Marc Benamou ?
Il faut savoir que bon, j'ai passé 2 ans à travailler avec Nicolas Sarkozy, un an de campagne électorale où j'ai notamment conçu la campagne avec le publicitaire Jean-Michel Goudard, qui est un excellent concepteur et un grand intellectuel que j'aime beaucoup. Et un an... Donc, j'ai pu ébaucher un certain nombre de programmes. J'ai travaillé, mais ce qui est intéressant, ça enseigne bien sur les projets qu'on impulse et la manière dont ils survivent.
Oui. Par exemple, l'initiative de faire venir à l'Élysée, il y a une douzaine d'années de ça, les 15 plus grands architectes du monde, de Foster à Zaha Hadid, pour les faire plancher sur le Nouveau Paris.
Oui.
Elle est de vous, cette initiative ?
Oui, bien sûr, mais c'est moi qui ai monté ça. C'est ma grande initiative de début pour faire travailler sur le Grand Paris les plus grands architectes du monde. Ils ont été reçus à l'Élysée, ils ont travaillé pendant 2 jours. Ça a été un enthousiasme absolu.
Et qu'en reste-t-il ?
Tué par la technostructure, tué par la prudence du ministère de la Culture, tué par les préfets. Là où il aurait fallu mettre des architectes à l'imagination, on a mis effectivement des élèves sortis des grandes écoles. Voilà où en est le Grand Paris 12 ans après. La fusion de tout l'audiovisuel extérieur tout à l'heure, on en parlait, RFI, TV5, Patati, en fait, tout ce foutoir devait être normalisé, centralisé, pour donner à la force une parole dans le monde à l'audiovisuel extérieur, tué par la nomination de Madame Ockrent, j'en ai parlé. C'est difficile l'État, c'est difficile. C'est difficile parce que l'inertie, parce que les conformismes, je ne dis pas que j'ai tout bien fait. Mais moi je suis rentré comme un chien fou, car je croyais à la force du changement, et d'un changement assez radical. Peut-être que Nicolas Sarkozy n'a pas toujours été suivi par ses ministres, pas toujours été bien conseillé, qu'il a gardé trop de prudence, qu'on lui a reproché. Peut-être que Macron a plus d'énergie et plus de transgression aujourd'hui. On verra.
Alors, vous dites, De Gaulle avait Malraux, Mitterrand avait Jack Lang. Et alors, depuis rue de Valois, c'est transparent ?
Jack Lang m'a dit une chose un jour. Ni moi, ni Malraux n'auront pu exister, même s'ils ne se comparent pas à Malraux, si on n'avait pas eu le soutien absolu. Si lui, en tout cas, de Mitterrand et l'autre de Gaulle. Soutien absolu devant les ministres, soutien absolu devant Bercy, c'est-à-dire donner des moyens. Or aujourd'hui, ni Nicolas Sarkozy, ni François Hollande, et hélas, ni Emmanuel Macron, n'ont eu l'attitude de courage et d'engagement de Gaulle et de Mitterrand face à la culture. C'est pas grand-chose la culture. Au temps de Mitterrand, c'était 1% du budget de la culture.
En septembre 2008... on annonçait votre arrivée à la Villa Médicis, la prestigieuse et si convoitée Académie de France à Rome. Et puis, il n'en fut rien car les ennemis étaient tapis dans l'ombre. On est à la radio, alors il faut que je dise aux auditeurs qu'il a un immense sourire qui passe jusque derrière les oreilles, Georges-Marc Benamou. Pourtant, cet épisode vous a rendu mélancolique ? Ou bien vous avez le cuir tanné ?
Ah non, mais c'est quand même un épisode... Oui, qui en dit long sur l'État. Mes relations étaient, c'est connu, assez mauvaises avec la ministre de la Culture. Et on décide de m'exfiltrer de l'Élysée. Et Sarkozy me propose ce poste très convoité à Rome, Villa Médicis, Royal. Sauf que moi, je ne veux pas y aller. J'ai un petit garçon à l'époque qui a 8 ans. Je n'ai pas envie de passer ma vie dans les avions. Il va me manquer. Ma fiancée de l'époque n'était pas folle d'aller à Rome. Donc je refuse par 2 fois. Et ils annoncent quand même ma nomination. Et se lève une pétition parisienne de gens d'ailleurs qui, chaque fois que je les croise dans Paris, ont démenti cela. Bon, c'était, je crois, une crise autant anti-Sarkozy, c'est ce que le président m'a dit à l'époque, contre moi. Oui, une cabale parisienne, oui. dont les gens se souviennent. Vous savez que j'ai jamais mis les pieds à la Villa Médicis et les gens m'arrêtent dans la rue en me disant c'était comment la Villa Médicis. C'est les légendes urbaines, comme ça.
Les légendes urbaines. Bon alors, en tout cas, parlons des belles ondes positives. On évoquait tout à l'heure ce film, Le Promeneur du Champ de Mars, qui a été l'adaptation de votre premier roman, fait des confidences que vous avez faites Mitterrand. Ça m'envoie à votre nouveau roman, Le Général a disparu, qui paraît chez Grasset. Lui aussi contient tous les ingrédients de ce qui pourrait être une tragédie, révolution, intrigue, des ambitieux, les traites, les coups de dé politiques, le mystère, tout ça serait fabuleux, porté à l'écran. Vous verriez bien ce roman devenir un film ?
Oui, pourquoi pas. Moi, j'écris en images, donc pourquoi pas. Moi, je verrais aussi une pièce de théâtre, si j'en appelle aux grands comédiens qui nous écoutent, qui écoutent Europe 1. Je pense que ce tête-à-tête entre De Gaulle et Massue, et puis ces deux femmes, il faut parler de Madame
un
de Gaulle.
Un peu comme la pièce Le Dîner, d'ailleurs, n'est-ce pas ?
Grande pièce de Jean-Claude Briseville.
Oui, oui.
Il y a quelque chose de théâtral dans ce huis clos, ces deux hommes, ces deux femmes. Madame Massue, personnage considérable, et Madame de Gaulle, considérable et méconnue. Et très attachante.
On retrouve tout de suite Georges-Marc Benhamou.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Avec Isabelle Morizet sur Europe 1.
Jusqu'à 16h, vous écoutez « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ». Cet après-midi, Isabelle Morizet reçoit le journaliste, écrivain, essayiste et polémiste Georges-Marc Benhamou à l'occasion de la parution de son dernier roman « Le Général a disparu » chez Grasset.
Georges-Marc Benhamou, est-il vrai que François Mitterrand vous a appris à écrire en vous enjoignant de chasser les adverbes ?
C'était quand même un délice de ces déjeuners dans... le samedi, dans ce restaurant chez Lulu, dans le 14e arrondissement avec Pierre Berger et Mitterrand, oui. On parlait de littérature, et effectivement, de temps en temps, il y avait des conseils. Il faut chasser l'adverbe. Et c'est vrai que depuis...
Épurer. Écrire à l'os, comme on aime dire aujourd'hui.
Écrire à l'os, exactement. C'est comme ça qu'il aimait, le style. C'est, au fond, la grande littérature très travaillée, celle de Flaubert, celle de Chardon aussi.
Voilà. Plutôt que celle de Balzac.
Absolument.
Ou Proust.
Absolument. Et donc, je chasse l'adverbe. Et c'est devenu phrase courte ou phrase longue, chasser l'adverbe. Mais deux choses, chasser l'adverbe et comme dit Victor Hugo, et c'est ce que je fais obsessionnellement dans le livre, prendre le lecteur par la main et faire en sorte qu'il ne vous lâche jamais.
Mais vous lui montriez donc vos carnets à François Mitterrand ?
Non, pas vraiment. Mais il me donnait des conseils amoureux, des conseils de littérature. Ça se mêlait ensemble dans la conversation, dans les bistrots. Et ça avait un charme fou. Et c'était tout. Même si on parlait de femmes, et beaucoup, car c'était un grand séducteur, sans jamais de vulgarité. Un amour des femmes avec une certaine élégance.
En fait, Mitterrand qui, il faut bien le dire, se préoccupait beaucoup de sa postérité, aurait aimé être un grand écrivain.
Il m'a raconté à la fin de sa vie qu'il avait hésité. Vous savez, à la fin des vies, les hommes, les femmes font leur bilan. Et un jour, on était Montparnasse en voiture, il me dit « J'ai balancé. J'avais 26 ans, 27 ans, j'ai balancé. J'ai pensé à être écrivain, 1946-1947. Et puis j'ai calé. Pour quelle raison ? D'abord, il fallait être un immense écrivain au niveau de Balzac ou de Flaubert ou de Proust. Et que j'ai su que je ne le serais pas, car je n'avais pas assez d'imagination. » Donc il était une très belle plume, et on l'a vu dans ses textes, on l'a vu dans ses chroniques, on le voit encore dans ses lettres magnifiques à Anne Pinjot.
Mais il lui manquait le carburant de l'imagination.
Exactement.
Alors puisqu'on évoque la littérature, revenons à l'objet de votre nouveau roman. Voilà, presque toute la littérature produite par Mai 68 s'est focalisée sur Daniel Cohn-Bendit, bien sûr, sur Jacques Sauvageau, l'autre leader à la gueule d'ange, et puis sur le rôle de Pompidou. Pourquoi n'a-t-on pas écrit sur la fuite mystérieuse de De Gaulle à Baden-Baden, alors que cette défaillance, j'ai presque envie de dire cet abandon du père de la nation, est resté dans les mémoires vraiment comme un événement traumatique tout à fait incompréhensible ?
Ça, il faut demander à ceux qui n'ont pas écrit les livres. Écoutez, d'abord... je crois qu'il y a eu un ou deux livres que je n'ai pas lus sur ce thème-là, qui tournaient autour de cette question. Moi, je me suis lancé sans cette hypothèse, c'était une obsession d'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, j'adore aller voir derrière les portes fermées du pouvoir, de l'interdit, de l'histoire. Et quand j'ai commencé il y a quelques années, j'étais pas sûr d'y arriver parce que je pouvais friser le ridicule. Penser dans la tête de De Gaulle, penser dans la tête de Pompidou, penser dans la tête de Massue, c'était casse-gueule. Et j'étais prêt à ne pas sortir le livre si je ne trouvais pas la bonne musique.
La bonne musique, voilà.
Je crois avoir trouvé une forme de vérité, en tout cas ma vérité, sur ce mystère-là.
Alors, dans cette fuite du 29 mai 68, que vous racontez donc dans ce livre intitulé « Le général a disparu », tout démarre vraiment comme celle orchestrée 177 ans plus tôt, avec Louis XVI et Marie-Antoinette, la fuite à Varennes. On l'a rapidement évoqué tout à l'heure, mais si on précise, alors il faut savoir que pour cette fuite, De Gaulle s'est mis un vieux paletot de civil sur le dos, et puis les bagages de Tante Yvonne sont si volumineux qu'ils ne rentrent absolument pas, non pas là dans une berline, mais dans l'hélicoptère. Comme on n'arrive pas à tout caser, des objets de famille, de l'argenterie, en plus des effets personnels, on prend du retard, beaucoup de retard. Et puis il y a surtout la terreur de croiser sur le tarmac un émissaire de Pompidou, son premier ministre, car Pompidou, dites-vous, a des barbouzes partout.
Mais le pouvoir, il est chez Pompidou, il dirige la police, il dirige le ministre de l'Intérieur, etc. Donc il y a une vraie méfiance en mai 68 entre De Gaulle et Pompidou, et Pompidou voulait absolument, et ça les historiens le disent, c'est qu'avant que De Gaulle parte, il partait à Colombey officiellement, il signe un papier à Pompidou qui était un blanc-seing qui lui permettait de dissoudre l'Assemblée, c'est-à-dire donner un papier pour transmettre le pouvoir à Pompidou. Or, De Gaulle refuse, et il s'en va, mystérieusement.
Madame de Gaulle ne voulait pas qu'en 65 son épouse représente. Elle avait vraiment tout fait pour l'en dissuader. Hein. Elle voulait qu'il parte en beauté, clamait-elle, avec les honneurs pour se reposer à Colombey. Mais là, sa fin, sa sortie dans l'histoire, si en tout cas elle devait se faire ainsi, était vraiment dans le déshonneur, avec la peur d'être retrouvée donc par les espions de Pompidou. Je voudrais savoir combien d'hommes fidèles en fait étaient au courant, parce qu'on ne peut pas non plus organiser ce genre de fuite en hélicoptère sans qu'il y ait un clan très rapproché qui surveille tout.
Ça peut vous paraître incroyable. Le marin Floïc, qui l'accompagnait, son aide de camp, ne savait pas. Il a raconté à tout le monde qu'il allait se reposer à Colombey. Donc, il ne l'a dit qu'après Colombey.
C'est-à-dire que dans l'hélicoptère de la fuite, personne ne savait que, en fait, De Gaulle partait vraiment très très loin.
Oui. Il ne le dit pas à son fils. Il ment à son fils. Il ment à son fils Philippe, à qui il dit « va faire une cure à Baden, ça va mieux, parce qu'à Contrexéville, on a refusé le fils de Gaulle, parce qu'on ne veut pas qu'il aille en cure, parce qu'on n'aime plus les de Gaulle, on a refusé de le recevoir à l'hôtel de la cure, le fils de Gaulle. » Donc il dit à son fils « tiens, va à Baden, peut-être tu seras reçu, mais il ne sait pas que… » Donc il ment à tout le monde, il ne le dit à personne. C'est d'ailleurs le principe d'une fuite, c'est le secret de la fuite de Louis XVI, le secret de la fuite de Louis-Philippe, enfin c'est de l'élémentaire.
Mais à un moment donné, en plein ciel, il va bien falloir lâcher le nom de Baden-Baden. Alors, je vous pose la question, parce que ça m'apparaît comme quelque chose d'hallucinant. Baden-Baden, avoir choisi l'Allemagne, l'ennemi absolu de la France en ce 20e siècle.
Il considère que Baden, c'est une terre d'occupation française. C'est-à-dire qu'il va sur une base française, où il se sent en sécurité, et il va voir un vieux compagnon, qui est Massu. Mais Massu, ça a été le premier fidèle de De Gaulle, dès 1940. Massu, qu'on méprise un peu, ça a été l'homme qui invente De Gaulle en 1958, c'est-à-dire sur le forum d'Alger, c'est lui qui empêche le putsch, et qui a fait acclamer De Gaulle, et si De Gaulle revient au pouvoir, c'est grâce à Massu. Sans Massu, pas de De Gaulle en 1958. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce vieux fidèle, 2 ans plus tard, De Gaulle va le piéger, car il ne le supporte plus. Il le trouve dangereux en Algérie, et il lui invente une histoire tordue. Il le fait tomber, il le fait revenir en France.
Il l'écarte.
Il l'écarte, et Massu, pendant 6 ans, va vivre au placard, humilié. Lui, le vieux Briscard, l'un des premiers fidèles, lui qui a fait De Gaulle en 58, lui qui demande rien, et ben on le met au trou. Alors il récupérera un poste en 66 pour aller à Baden. Et donc, quand De Gaulle arrive, il arrive chez un mec qu'il a humilié, il a humilié la femme, dont il a brisé la carrière. Et c'est ça qui donne tout ce sel à ce tête-à-tête décisif.
Et la suite, eh bien pour la connaître, il faut plonger dans ce roman passionnant qui nous conte vraiment une tragédie du pouvoir bien réel. Le général a disparu, ça paraît chez Grasset. Georges-Marc Benamou, son auteur et mon invité, on se retrouve tout de suite.
15h53, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, suite et fin avec Isabelle Morizet et son invité Georges-Marc Benamou.
Georges-Marc Benamou, on parlait cinéma tout à l'heure en évoquant le film Le Promeneur du Champ de Mars, adapté de votre roman Le Dernier Mitterrand, pour lequel Michel Bouquet, incarnant Mitterrand, avait eu un César. Mais Le Fantôme de Munich, votre roman qui est sorti en 2007 et qui a été un grand succès de librairie, a été scénarisé par Václav Havel, ancien président de la République tchèque et slovaque. Il devait être réalisé par Miloš Forman, immense metteur en scène, Amadeus vole au-dessus d'un nid de coucou. Or, c'est quand même insensé avec un casting pareil. Le film ne s'est pas fait parce qu'il paraît qu'il allait être trop cher.
Oui, c'était d'abord un coup de foudre de ces deux immenses Tchèques de raconter cette histoire tragique de l'Europe et de la Tchécoslovaquie, c'est-à-dire comment la France, pays qui était le père de la Tchécoslovaquie, a livré ce pays à Hitler dans une réunion à huis clos en octobre 1938. Et donc c'est ce huis clos qui a été adapté par Václav Havel et Miloš Forman. Et vous imaginez le bonheur pour un écrivain français d'être adapté par l'immense Miloš Forman et considéré par Václav Havel. Donc ça a été des moments de bonheur.
Vous avez beaucoup travaillé ensemble.
Oui, ce scénario existe.
Vous avez fait les repérages.
On a fait des repérages. On a même repéré la maison près d'Avignon où devait jouer le jeune Daladier qui allait hélas livrer la Tchécoslovaquie. Il a été dans la Führerbau, c'est-à-dire la maison du Führer, à Munich, où nous devions tourner.
Oui.
Et il a pleuré, Miloš Forman. Il avait près de 80 ans. Parce qu'il faut savoir qu'à 8 ans, les Allemands, il avait 8 ans, lui ont pris son père, puis sa mère. Et qu'il s'est retrouvé orphelin à 8 ans. Et cet homme voulait faire ce film pour cela. Et c'est à la fois un grand honneur et aussi un chagrin qu'il n'ait pas pu le faire pour rendre hommage à ses parents disparus.
Oui, parce que en fait, ce projet est arrivé trop tard dans sa vie, c'est ça. Miloš Forman, et c'est redoutable pour un metteur en scène, commençait à perdre la vue.
Oui, il y a eu deux obstacles. D'abord, le film était trop cher, on n'a pas réussi à le financer, puis il a commencé à perdre la vue, ce qui est quand même un drame. Mais je crois que le bonheur d'avoir pu approcher l'homme d'Amadeus, l'homme de Vol au-dessus du nid de coucou, enfin, c'est quelque chose d'immense pour moi qui considère le grand cinéma au moins autant que la littérature.
Alors, quels sont les projets qui vous portent actuellement, Georges-Marc Benhamou ?
Je fais actuellement un film pour raconter Albert Camus autrement.
Oui, parce que vous êtes aussi producteur et producteur de documentaires, producteur... Alors, pour raconter Camus autrement, c'est-à-dire ?
Nous allons célébrer le 60e anniversaire de la mort de Camus, ce tragique accident de la route dans la face Helvética mythique. Et France Télévisions m'a demandé un grand documentaire qui rend hommage à Camus, puis j'y travaille. J'y travaille avec une équipe formidable et ça devrait être présenté l'année prochaine. Et je rentre dans la vie de ce personnage parce que c'est plus qu'un écrivain, c'est un mythe, c'est un héros français, c'est aussi un personnage tragique qui a été malade, un fils de pauvre, une vie d'une extrême richesse à toute allure, foudroyé à 46 ans. Donc c'est un grand mélo sur un grand personnage, sur un frère des hommes. Oui. C'est pour ça qu'on aime Camus.
Georges-Marc Benhamou, vous êtes avocat? Vous n'avez jamais exercé ?
Non. Non, c'est un métier que je... J'ai passé mon diplôme d'abord pour me faire plaisir à mon papa, parce qu'il était très content.
Oui.
Et puis, quand on est journaliste, quand on vient de sa province, quand on connaît personne, on se dit, c'est bien d'avoir un métier. Donc, je me suis toujours dit que si je me cassais la gueule comme écrivain ou journaliste, j'aurais un métier. Donc,
Et puis, vous êtes devenu l'observateur... privilégié des politiques. Pourquoi la grandeur voisine toujours avec la cruauté en politique ?
Il faudrait demander à Shakespeare. Au fond, il dit que les rois, les monarques, les puissants sont les personnages les plus romanesques et les plus tragiques. Tout est dans l'excès, c'est peut-être ce qui nous intéresse dans l'observation et les récits, comme je le fais pour le général.
Alors, j'aimerais qu'on finisse sur une phrase qui relie deux personnages qui ont été au centre de cette conversation. Est-il vrai qu'un jour, Mitterrand vous a glissé à l'oreille ce jugement cruel ? De Gaulle était plus important pour ce qu'il était que pour ce qu'il faisait.
Oui, la rivalité de Gaulle-Mitterrand était terrible. Et au fond, Mitterrand savait qu'il ne faisait pas, pardon de l'expression, le poids face à De Gaulle. Pour une raison, à cause du symbole du 18 juin. Il y a deux De Gaulle. Il y a le De Gaulle du 18 juin qui restera dans l'histoire comme plus que Jeanne d'Arc, car il sauve un pays et sauve l'âme de ce pays. Et puis il y a le président De Gaulle qui est peut-être un peu plus banal. Mais la trace du 18 juin écrasait Mitterrand et il n'y avait pas photo.
Au fait, c'est étonnant de s'appeler De Gaulle quand on incarne la France, comme si ce nom prédestiné avait fait de lui un élu, pas seulement par le peuple, mais par les dieux.
Il y a quelque chose de mystérieux. Et puis, moi j'ai c'est peut-être un peu archaïque, j'ai le sentiment que l'histoire choisit ses vieux chefs gaulois. il y a quelque chose de tellurique, il y a quelque chose, il n'y a pas de hasard. Et que même l'élection procède de cette idée. Ils deviennent des vieux chefs gaulois dès qu'ils ont été choisis par les Français. Peut-être pas les derniers présidents qui sont encore un peu verts.
Non, ça fera l'objet d'une prochaine conversation.
Je pense que le quinquennat a changé un peu la donne sur le plan de la conception du monarque républicain.
Georges-Marc Benhamou, vous publiez Le Général a disparu chez Grasset. On vous retrouve d'ailleurs régulièrement dans l'Info du Vrai, présenté par Yves Calvi en clair sur Canal+. Merci infiniment pour toutes ces confidences. Je vous dis à très vite.
Merci Isabelle.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet qui reviendra bien sûr le week-end prochain dès 15h sur Europe 1 avec de nouveaux invités de Pascal Bruckner et Pascal Obispo. Obispo d'ailleurs qui était l'invité de Mathieu Noël ce vendredi. Et Mathieu Noël, eh bien on va le retrouver dans un instant dans l'équipe.